Bien. May I present you Antoine de Cohen?
Introduce.
Bon, on va commencer par un petit compliment qui n'est pas nécessairement d'usage.
Moi, je suis venu que pour ça. Hein. Je veux que des compliments, là.
Vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai un peu préparé, comme tous les lycéens qui préparent leurs petits compliments en fin d'année. Il y a trois sortes de livres. J'en sais quelque chose, c'est mon métier d'en recevoir et d'en lire. Il y a ceux qu'on lit et qu'on met dans sa bibliothèque. Un certain nombre. Pas nécessairement la majorité, mais un certain nombre. Il y a ceux qu'on ne lit pas, mais qui sont extrêmement utiles parce qu'ils servent à caler les meubles un peu branlants. Et puis il y a ceux qu'on lit et dont on prend à dessein le temps de les lire. Ce sont des livres un peu buissonniers. Et vous aurez compris que je considère que ce dictionnaire amoureux du rock, déjà parce qu'il est un dictionnaire, fait partie de cette catégorie. Moi, ça fait 15 jours qu'il est sur ma table de nuit. Je vous raconte ma vie, c'est intéressant.
Faut savoir ce qui se passe dans le lit. Hein.
Oh, soyez déçus. Et ce qui se passe, c'est que voilà, je le prends, je me dis, ah oui, c'est vrai, merde, il y a une entrée sur Gene Vincent, hier soir. Et ils sont assez peu nombreux, en revanche, les livres qui me font cet effet-là. Il y a eu dernièrement le recueil d'articles de Bernard Franck chez Grasset, qui m'avait bien tenu au corps aussi. Et ça, c'est un vrai compliment.
Ah oui,
Et celui-là, il me tient bien au corps aussi. Voilà. On va commencer par le commencement. Donc, c'est Dictionnaire amoureux du rock, c'est chez Plon, c'est une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux, où il y a à boire et à manger, et là, c'est les deux à la fois, boire et manger. Alors, on va commencer par le commencement, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la première page, c'est-à-dire la page du même auteur. Je vois du même auteur, donc, ici présent, premier livre, Magma, Albin Michel, 1978, diantre, me dis-je. Antoine de Cohen, est-ce que vous écoutez toujours Magma?
Non, j'écoute plus Magma.
Oui.
J'ai beaucoup écouté Magma à une époque où le rock me semblait devenir un peu ennuyeux et pantouflard, et parce que c'était une musique très très alternative à l'époque et assez exigeante, on va dire. Mais en tous les cas, une entreprise digne d'intérêt parce que très différente de tout ce qui se pratiquait, parce que allant travailler une musique à partir de racines tout autres que ce qu'on avait dans les oreilles à l'époque, c'est-à-dire des racines très très européennes, et puis animée surtout par un personnage qui s'appelle Christian Vander, qui est le créateur de Magma, son compositeur, celui qui a imaginé tout l'univers. Ça vous évoque quelque chose, Magma? Ouais. Voilà, qui est vraiment au cœur de cette idée et qui est par ailleurs un batteur absolument prodigieux. Et donc à l'époque, après avoir vu Magma en concert dans un club, j'avais été littéralement scotché au mur, comme on dit, par cette musique, ce spectacle, et comme le rock m'ennuyait passablement, parce qu'il était devenu à ce moment-là, j'en ai profité pour faire une petite incursion en territoire Magma, qui m'avait permis, grâce à Vander étant un excellent passeur, d'accéder à des musiques que je n'aurais sans doute jamais écoutées, comme la musique de John Coltrane, la musique de Sonny Rollins, quelques jazzmen. Et à un moment en plus où Miles Davis lui-même commençait à se diriger vers à essayer de faire la jonction entre le jazz classique, l'électricité, tout. C'était une période très intéressante. Et donc j'ai écouté passionnément Magma. Je me suis passionné pour ce personnage de Vander qui me passionne toujours aujourd'hui. Même si je n'écoute plus aussi assidûment la musique de Magma, encore que j'étais au concert du 40e anniversaire au Casino de Paris l'an dernier. Et le personnage est passionnant parce qu'il est resté au plus proche de son exigence artistique. Il n'a pas dévié, il n'y a pas de compromis, pas de compromission. Et je suis toujours très admiratif des artistes qui restent groupés.
Alors c'est une des clés de ce livre, je crois, c'est que ce livre est un livre passerelle. Et c'est une des clés peut-être de votre savoir-être avec le rock. Un truc en appelle un autre, qui en appelle un autre, une espèce de marabout de ficelle.
Oui, parce qu'en fait c'est tout le plaisir de la collection. Parce qu'en fait j'avais pas d'intention à arrêter de me mettre à écrire sur le rock, même si c'est une musique qui est très importante pour moi, que j'écoute depuis toujours, qui m'accompagne qui fait partie de ma vie. Enfin, j'avais pas de, je pouvais pas la nécessité d'un seul coup de prendre la plume pour écrire là-dessus. Et en fait, le prétexte de cette collection, Dictionnaire amoureux, qui porte mal son nom d'ailleurs, parce que le dictionnaire est vraiment un pur prétexte, et prétexte à un abécédaire, mais c'est la seule contrainte que ça pose. Ce qui est important, c'est l'adjectif amoureux. Votre relation personnelle, enfin, pour chaque auteur qui s'intéresse à un sujet particulier, à l'histoire dont il parle. En l'occurrence, pour moi, le rock. Et donc, cette possibilité de pouvoir me promener, de vagabonder, c'est le terme exact, sans contrainte pure, sans souci d'exhaustivité, sans me dire, il faut que je parle de tout. Je me suis permis une promenade dans cette musique-là, en ne parlant que des choses qui me venaient naturellement. Et tout en réalisant à la fin qu'en fait il en manque encore beaucoup, parce que j'aurais pu faire le double en volume si je n'avais eu un éditeur un peu impatient. Enfin, je l'ai fait traîner pendant un an et demi quand même. Donc c'est pas exhaustif du tout, c'est très partial, c'est très amoureux, très amoureux, ouais.
Oui, c'est un des grands intérêts du volume, c'est que là aussi j'en sais quelque chose, c'est parfois facile de ne pas aimer, et c'est même assez facilement gratifiant de ne pas aimer. Il y a des coups de griffe dans le livre, et même de grands coups de tatane, mais c'est vraiment pas l'essentiel. Et c'est ô combien plus difficile, il en va du rock, des livres, et comme dans la vie, c'est parfois plus difficile de dire pourquoi on aime quelqu'un ou quelque chose que de dire pourquoi on n'aime pas.
Bien sûr, c'est moins drôle.
C'est moins drôle. Et c'était ça le projet.
Ouais, enfin, ouais. Bah, le projet, c'était aussi... Alors, moi, le plaisir que j'ai pris à écrire ça, c'est que voilà, le plaisir que me procure la musique, que m'a toujours procuré la musique, et qu'elle continue à me procurer. Je parle ici du rock, mais j'écoute pas que du rock, même si le rock est vraiment le tronc d'arbre principal. Le plaisir que j'ai à écouter de la musique, j'ai essayé de le retrouver en écrivant à propos de la musique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a une émotion, il y a toujours un peu d'humour. Je trouve que le rock est une musique assez joyeuse. On peut aussi aimer Joy Division un soir de novembre sous la pluie. C'est pas incompatible, mais sur le fond, c'est une musique un peu agitée, un peu bordélique, un peu qui moi m'a souvent redonné espoir et confiance, y compris dans des moments de doute. Et donc je voulais essayer de faire repasser ça par l'écriture. Voilà, que ça soit pas déjà envahi par un esprit de sérieux, que ça soit pas, parce que je ne suis pas musicologue, donc j'allais pas me lancer dans de sérieuses études, sociologie du rock, d'autres auteurs l'ont très bien fait, genre comme Nick Toschis, comme Guralnik. Mais c'est pas mon métier, donc je voulais quelque chose d'à la fois impressionniste, et puis en même temps, comme j'ai cette relation avec cette musique, qui est une vraie relation, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le rock, j'ai fait beaucoup d'émissions, et du coup j'ai pu croiser la route de beaucoup des musiciens qui étaient importants pour moi, aller voir un peu dans la coulisse ce qui se passait, c'est ça que j'ai essayé de raconter. C'est plus ça que j'ai essayé.
Alors effectivement, on a beaucoup écrit sur le rock, en France, outre-Atlantique et outre-Manche. Mm-hmm. Mais parfois, je ne citerai pas de nom, on s'est aussi servi du rock pour imposer une patte, un style, et de manière, ça peut être sublime. J'en citais un, c'est Edeline, par exemple. Mm-hmm. Quand Edeline parle de Gainsbourg, il ne parle que d'Edeline. Là, la musique reste en avant. Non pas pour dire que vous n'avez pas de style, mais vous ne vous payez pas sur la bête. De toute façon, vous n'avez pas besoin de ça.
Oui, parce que je voulais pas non plus que ça devienne des mémoires déguisées ou un livre de souvenirs. Encore Antoine qui vous raconte. Vous vous souvenez? Ah oui, j'étais là. Non, je voulais que ça reste... d'abord, je voulais pas faire un livre nostalgique du genre « J'ai écouté ça, vous devriez, c'est formidable et tout. » C'est une musique que j'écoute aujourd'hui. C'est-à-dire quand je parle de gens comme je sais pas, les Beatles ou Springsteen, par exemple, ce sont des gens que j'écoute régulièrement, qui font partie de mon existence, qui continuent à me nourrir. Et Dieu sait si les écoutes des Beatles auraient pu épuiser le sujet depuis longtemps, mais pas du tout. Donc je voulais que ça soit un livre contemporain. Voilà. contemporains et que je parle, même si il y a beaucoup d'artistes qui sont des gens qui sont apparus dans les années 60, 70, 80. Je voulais que ça garde cette connexion à quelque chose, pour moi évidemment, parce que tout ça est très personnel, de contemporain, de présent.
Alors c'est pas des mémoires, mais il y a quelque chose nécessairement de la promenade autobiographique.
Ah oui, parce que tout ça s'entrelace de manière assez subtile et intime avec l'existence, oui, ouais. Bien sûr. Parce que j'écoute du rock depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait 15 ans quoi quand même.
C'est un plaisir à faire.
Bonne quinzaine d'années maintenant.
Ça file.
CFA. Ouais.
C'était un plaisir à faire.
À écrire. Ouais. Ah oui, ouais. Oui. Oui, oui, ça, et puis un plaisir très... C'est-à-dire que dans un premier temps, parce que ce n'est pas mon premier métier d'écrire, enfin de faire des livres en tous les cas, donc je me suis dit que j'allais faire ça entre un documentaire, un tournage, bon. Et puis c'est devenu une préoccupation quotidienne. C'est-à-dire que j'avais besoin de ma dose tous les soirs, de m'y recoller, d'avancer là-dessus, d'écrire, jusqu'à la dernière ligne droite, les 6 derniers mois, où j'ai pratiquement plus fait que ça, et de manière très obsessionnelle.
Alors j'imagine, mais je peux me tromper, mais que finalement, il y a des trucs qui vous-même ont dû vous surprendre à l'arrivée, des réévaluations, dévaluations.
Oui.
Oui,
bien sûr. Parce que, ce qui m'a surpris, c'est qu'au final, je me retrouvais à ne pas parler de certains artistes qui ont été... extrêmement important, je sais pas, des gens comme Brian Wilson, les deux de XTC, Hendrix ou alors aujourd'hui un groupe comme Them Crook Vultures que j'écoute beaucoup, ou Damon Albarn. J'avais l'intention d'écrire sur eux, puis voilà, le vagabondage dont on parlait m'a emmené ailleurs. Et je me suis retrouvé à développer, voire surdévelopper certains sujets, en aborder d'autres que j'avais pas du tout prévu d'attaquer. Et ouais. Mais c'est le plaisir de l'exercice aussi.
Ouais. Alors, dans ces vagabondages, moi j'ai l'impression, mais je n'ai pas livré une étude exhaustive, que quand même, ces vagabondages vous amènent plutôt, ne serait-ce que dans le champ de l'imaginaire, outre-Atlantique qu'outre-Manche.
Oui, c'est exact.
Bon, voilà, c'est...
Non, mais oui, c'est vrai. C'est dire plus que du côté français.
Et du côté français, oui, ça c'est évident, même si vous en parlez quand même.
Oui, parce qu'en fait, le premier déclic, il a été anglais.
Ouais.
C'est les Beatles.
Ouais.
Voilà. Espèce de révélation comme ça. J'étais très 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 jeune, mais je m'en souviens très bien. Et à partir des Beatles, tout le développement de la pop anglaise, ce qu'on appelait la Britpop. Et après... Je suis revenu à la musique américaine.
Ouais.
J'ai fait le chemin inverse, en fait. Et des gens comme les Stones m'ont ramené vers le blues ou Dylan. Et après, j'ai refait la boucle, le rock américain, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais la musique californienne, puis le retour à... Après, il y a cette période un peu bizarre dont on parlait avec Magma, et puis la réaction anglaise des années 70 qui m'a complètement replongé dans l'Angleterre.
Ouais.
Donc ça a toujours été plutôt, plutôt anglo-américain.
Ouais. Figure centrale, là aussi, il faudrait vérifier, mais pour moi, peut-être plus que Lennon McCartney, c'est Dylan.
Oui.
Dylan revient dans tout nombre d'occurrences incroyables.
Oui, Dylan, on a eu le sentiment d'avoir... Parce que Dylan n'est pas juste un musicien. Pardonnez-moi le poncif, mais c'est un grand auteur. Et je pense un grand poète. Et quelqu'un qui laissera une trace évidente au-delà de la musique. Quoi.
Ouais.
Peut-être qu'on n'écoutera même plus la musique de Dylan dans quelques dizaines d'années, qu'on se contentera des textes. Enfin, je ne sais pas, peu importe. Mais toujours est-il que Dylan est quelqu'un avec qui on a appris une nouvelle forme de rhétorique, de vocabulaire, d'imaginaire, qui nous a aussi permis de revenir à nos propres auteurs, à des poètes français de la fin du 19e ou du début du 20e.
Ouais.
Voilà, il est rentré dans une boucle littéraire qui a été très important. J'en parle un peu pompeusement, là, mais c'est vrai.
Ouais.
À travers Dylan, on a redécouvert un terrain.
Alors, nonobstant votre jeune âge que vous venez de rappeler, vous avez quand même une sacrée chance. J'en parlais avec les gens qui faisaient l'émission Cinéma-Cinéma, à peu près en même temps que Les Enfants du Rock. Oui, c'est à peu près une émission merveilleuse dans laquelle ils ont pu voir un certain nombre de grands crocodiles qui, comme vous le savez, ont disparu de la surface de la planète avant que la disparition ne s'effectue. Ouais. Ça a été différent, bien sûr, mais ça a été un peu la même chose pour Les Enfants du Rock et pour votre génération. C'est-à-dire que certes, on peut toujours voir Keith Richards et Mick Jagger aujourd'hui, mais dans quel état, quoi? En 79, c'était quand même, ça signifiait encore quelque chose.
Alors Keith Richards, je l'ai vu il y a un mois, ça va, il tient encore.
Et c'est vrai. Ouais.
Il
m'a dit Nicolas.
Il est pas très stable.
Oui, ça, on le sait qu'il se casse la gueule des
cocotiers. Il est pas très stable, mais enfin, il a survécu à deux, trois trucs. Hein. Ouais. Et il a fait un livre que je trouve particulièrement génial.
Ah oui.
J'ai adoré. Pas vous? Ah moi j'ai adoré. J'ai adoré le livre de mémoire de Keith Richards. J'ai eu l'impression, alors là puisqu'on parle de livres autour du rock, sur le rock, tout ce que vous voulez, j'ai eu l'impression pour la première fois que c'était pas un commentaire, c'était le rock lui-même qui me racontait un peu l'histoire. Quoi. Ouais. Et puis il y a beaucoup de drôleries, il y a beaucoup de...
Je regarde un peu mieux. J'étais un peu rapide.
Bon, c'est pas le sujet.
Ouais, donc la question c'était, sans parler d'âge d'or, c'est pas la question, une espèce de nostalgie un peu rance, c'était the right place at the right moment.
Oui. Mais alors, pour le coup, je suis pas sûr que les Enfants du Rock aient eu cette mission-là, parce que le cinéma avait vraiment.
Oui.
Avec Philippe Garnier, qui était journaliste et Ventura. Qui réalisait. Ventura, qui était par ailleurs. Le premier réalisateur de Chorus.
Oui.
Donc tout ça se recoupe. Mais ils avaient une vraie volonté d'archivage, de garder des traces, de garder la mémoire d'un pseudo-âge d'or. Je me méfie toujours des âges d'or, moi. Mais ce n'était pas le cas, quand même, les Enfants du Rock. Les Enfants du Rock, on essayait de coller vraiment au moment où on faisait les émissions.
Ouais.
Ce qui explique qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu datées, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez pris comment le punk, par exemple?
Comment j'ai pris le punk,
En pleine poire ou pas du tout?
Pour moi, c'était une excellente nouvelle.
Ouais.
C'était une excellente nouvelle pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure.
Ouais.
À savoir que le rock était devenu un truc très ronflant, pontifiant, sérieux et emmerdant. Quoi. Mm. Et emmerdant. Les groupes de rock progressif,
milieu
des années 70, il fallait y aller quand même.
Ouais.
C'était devenu une musique de grand-père quoi, à écouter. Donc la réaction punk, les coups de latte dans l'édifice, le refus, enfin la volonté de remettre tout à plat et de recommencer tout au départ avec deux grades pas accordés, une batterie et un mec qui chante à peu près. C'est très, très bien.
Alors ça en dit peut-être plus long sur le lecteur que sur l'auteur, mais parmi les coups de griffe, il y en a un qui m'a enchanté, qui est pas excessivement méchant d'ailleurs, parce que vous vous rappelez des choses. Même si il y a une erreur que je porte à votre attention.
Ça m'aurait étonné.
C'est le.
Ça m'aurait étonné.
Non, mais on est très fiers à Bordeaux.
Ouais.
Vous dites que le premier concert des Pink Floyd en France, c'était en 70 à Paris. Non, c'était à Bordeaux en 69.
Ah, c'est pour ça.
En Off Sigma.
C'est pour ça.
Mais bon, bref, tout ceci pour dire que les Pink Floyd en prennent en 69. Ouais. J'y étais. J'étais probablement avec ma mère, mais je m'en souviens pas parce que je. Voilà.
Votre mère vous emmenait au concert de Pink Floyd?
Ouais.
Ah, d'accord.
Eh oui, c'est pour ça aussi. Mais. Mais il y a un bon. J'y pense à propos de cette histoire de rock progressive des milieux des années 70. Il y a un bon coup de patte sur le Pink Floyd quand même.
Bah sur, en fait, pas sur le Pink Floyd du début, parce que
Floyd
du début, l'époque Syd Barrett.
Non, non, sur le Pink Floyd, c'est Roger Waters et David Gilmour.
Mais après, là, quand ça devient cette espèce de. C'était très bien symbolisé par les cochons géants dans le ciel. Non, mais cette espèce de truc gonflé à l'hélium, avec le light show, le château de Versailles, je sais pas, ça me gonflait, mais alors à un point. Mais comme les Stones, après, quand les tournées sont devenues des trucs gigantesques et qu'il fallait les choper avec une longue vue sur scène, c'est pas ce que j'aime dans le rock.
Et aujourd'hui, on a l'impression que ce qui vous, pour reprendre votre expression, vous gonfle le plus, et ça aussi, c'est assez plaisant, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin du ciel, d'ailleurs, puisqu'il va voir le pape régulièrement quand il a des trucs à lui dire, c'est Bono et c'est U2.
Ah ben, il y est déjà, lui, il est béatifié, lui, c'est bon. Oui, mais c'est en fait, c'est pas ça, c'est que le ça, bon, c'est une bonne tête à claque quand même, Bono, faut l'admettre, non?
Ah bah, oula, oui.
Honnêtement.
Oula.
Bon. Ouais, c'est un... Il est... Et puis alors, bah, il fait partie de... Enfin, je veux pas de mal, pas de mal à Bono. Je m'endors pas le soir en plantant des épingles dans... Mais c'est juste que c'est tellement de la bonne conscience, tout ça. C'est tellement impossible de dire du mal de Bono et du tout. Parce qu'ils sont pour tout ce qui est contre, et contre tout ce qui est pour. Ouais. Donc si vous voulez dire, vous voulez pas dire c'est pas bien de défendre l'Afrique.
Non, mais on est assez loin de Jerry Lee Lewis, quoi. Enfin,
on est assez loin, ouais. C'est... On est assez loin. Et, ouais. Et surtout, maintenant, il y a un discours autour de tout ça. Une posture, chose d'extrêmement sérieux, pontifiant, bien pensant, qui est, me semble-t-il, et je peux me tromper, tout à fait à l'opposé de ce qui a donné naissance au rock.
Ouais.
Voilà. Non pas que le rock ne, et l'humanitaire ne puissent pas parfois faire bon ménage. Ouais. Je sais de quoi je parle, parce que je suis président d'une association qui s'appelle Solidarité Sida, et tous les ans, on organise un festival en demandant à des artistes de venir jouer. Mais que la raison d'être de ces artistes, ça soit de militer pour un monde meilleur, où on serait tous potes et où nous rappeler que la guerre c'est moche et que la pluie ça mouille. Il y a déjà Patrick Bruel, quoi. Mmh.
Ça marche toujours, Patrick Bruel.
Toujours.
Alors, il y a effectivement des absences, on en a parlé de certaines, mais d'autres qui m'ont un peu plus surpris. J'aurais pas dire de sottise, il faudrait que je vérifie, mais Roy Orbison, par exemple.
Oui.
Je pensais que ça allait y être.
Oui, moi aussi.
C'est ça.
Ouais. J'étais très surpris de ne pas le retrouver. Oui, il aurait dû. Il aurait dû, sauf que Roy Orbison, je n'ai pas connu Roy Orbison.
Ouais.
Donc j'en aurais parlé par ricochet, à travers des gens qui l'ont bien connu comme Costello ou Springsteen. Ouais. Et je l'ai évoqué d'assez loin à travers Chris Isaak.
Ouais.
Mais parce que Chris Isaak, à chaque fois, on lui dit qu'il a cette voix à la Roy Orbison, ouais. Ce qui l'agace prodigieusement d'ailleurs. Mais voilà, non, en fait, tout ça pour dire que je n'avais pas la connexion directe avec l'histoire. Donc je pense que ça serait venu dans un deuxième temps.
Ouais.
Mais évidemment, destin tragique, destin sublime.
Ouais, et puis quelle voix.
Voix angélique. Évidemment, il y a des histoires. Mais alors là, pour le coup, il y a eu déjà plein de choses écrites sur Roy Orbison. Et je voulais aussi éviter de rajouter du commentaire au commentaire.
Ouais, ouais.
Enfin, d'essayer de me contenter du mien dans un premier temps, puisqu'on n'échappe pas aux commentaires. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais relégué ça à un deuxième temps possible.
Le rock français ou...
Je ne suis pas en train de vous menacer d'un tome 2. Hein. Bon, assurez-vous.
Tant pis. Le rock français, ou ce qui en a longtemps tenu lieu, est évoqué, pour ce qui concerne sa branche mainstream, chat sauvage, de manière assez rigolote, un poil vacharde. Il y a un article sur un tournage avec Johnny aux États-Unis,
oui.
Qui est tout à la fois extrêmement vachard et très attendri. C'est comme ça que je l'ai lu.
Oui, mais c'est...
Et puis, bien sûr, comment y échapper. Et je crois que les enfants du rock ont beaucoup contribué à populariser ça. Par contre, vous vous intéressez beaucoup plus à toute cette frange qui part de Gene Vincent, qui arrive à Bachung, en passant par Gainsbourg. Enfin, bon, cette frange un peu noire et un peu hors la loi du rock français, quoi.
Oui, alors j'aime beaucoup dans le rock français. Il y a eu beaucoup de groupes de rock en France que j'ai aimés. Les Marquis de Sade, les Bijoux,
ouais.
Rita Mitsouko, évidemment. Ouais. Enfin, il y en a eu plein, c'est pas la question. C'est que j'ai toujours eu l'impression que ce qui se passait de plus intéressant, au final, dans le rock, ça passait à travers des artistes qui n'étaient pas directement constitués, formés pour jouer du rock à l'ancienne. Notamment des gens comme Bachung.
Ouais.
Je trouve que ce que Bachung, la manière dont Bachung a retraité le rock, dont il l'a intégré, dont il l'a fait bifurquer, enfin, ce qu'il en a fait me passionne. Mais ce qu'en a fait aussi Gainsbourg, à un moment, alors que Gainsbourg n'est pas du tout de l'univers du rock.
Il y a une anecdote, pardon, je vous coupe. Il y a une anecdote sur Bachung qui est absolument merveilleuse, je trouve.
Avec
les Pogues.
Oui. Oui, mais parce que c'était... j'étais très touché par ce personnage, par l'être humain.
Ouais.
C'était quelqu'un qu'on avait envie de prendre dans ses bras et de cajoler, Bachung.
Vous le rencontrez, vous faites un tournage avec lui, c'est au moment de passer le Rio Grande, c'est ça?
Oui.
Et là, il y a les Pogues qui arrivent dans le bar où vous êtes en train de vous pochetronner.
Non, en fait, j'avais organisé un duo en studio, j'avais fait venir les Pogues.
Ouais.
qu'ils l'accompagnent sur un morceau à eux. Et en fait, il était... c'est un garçon très timide, alors. Mmh. Et il était très impressionné d'avoir les Pogs.
Ouais.
Débarquer en studio pour lui, d'autant plus que c'était Costello qui produisait les Pogs, ouais. Et que Costello était aussi là. Et du coup, il s'était un peu imbibé avant pour se donner du courage.
Ouais.
Mais eux, les Pogs, vivaient imbibés, eux. C'était très difficile quand même de les suivre. J'ai jamais vu personne, ouais, boire autant que ça de ma vie.
Ouais.
Mais pas un artiste, un groupe. Tout le monde. Les musiciens, les roadies, enfin tout. Ils se déplaçaient, ils étaient une vingtaine, toute l'équipe. Mais j'ai jamais vu des gens picoler comme ça. C'était inhumain. Et ils assuraient le concert quand même. Mais donc le pauvre Bachung lui avait essayé de se mettre un peu dans le sillage. Et la version qui est enregistrée de Dirty Old Town était assez spéciale.
Alors il y a des écrivains qui croisent cette histoire-là, bien sûr. Je m'y suis un peu attaché plus personnellement. Notamment Roger Ellery.
Oui.
Au début, j'ai même cru que c'était une erreur. Et puis non, c'est pas une erreur. Il fait bien partie de ce dictionnaire amoureux du rock. Pourquoi ?
Très simplement parce que pendant que j'écrivais, je continuais à lire et que j'ai eu un choc terrible en lisant Roger John Ellery,
ouais,
qui est un auteur qui a écrit, alors qui a une histoire invraisemblable, mais il a eu 3 livres publiés en France, Seul le silence, Vendetta et le tout dernier, Les Anonymes. Il en a déjà publié 7 en Angleterre, mais il n'y en a pour l'instant que 3 traduits. Et en lisant Vendetta, j'avais le sentiment d'écouter du blues. Vraiment, c'était physiquement, je lisais ça le soir. C'est un bouquin assez noir, violent et radical. Et j'avais le sentiment d'écouter du blues du Delta, un truc primitif, lourd, poisseux. Et du coup, je me suis intéressé d'un peu plus près à Ellery, et il m'a semblé tout à fait naturel d'écrire sur lui. Et en fait, renseignement pris, et après avoir pris contact avec lui, je me suis rendu compte que non seulement la musique a une importance colossale dans son existence, il a d'ailleurs un groupe qui s'appelle les Renegades, où il joue du blues, qu'en plus il en parle très bien, et que c'est pas tout à fait un hasard s'il y a des résonances aussi fortes dans son écriture. Sans que ça en fasse le fameux écrivain rock là, que tout le monde aimerait finir par réussir à définir. Mais du coup, ça m'a semblé très naturel de l'intégrer. Et puis rien ne me l'interdisait. Voilà. Il y avait le cahier des charges, c'était amoureux. Donc j'étais amoureux, enfin, je me comprends, de Roger John Ellery. Et ça m'a semblé très naturel de l'intégrer dans le dictionnaire.
Alors, au sens premier du terme, vous êtes aussi amoureux d'un autre des épigones de cette étiquette d'écrivain rock, qui est le truc le plus plombant qui se puisse imaginer, qui est juste un grand écrivain, qui est Philippe Djian.
Ouais.
Vous racontez un peu les...
Qui a été bordelais pendant 2 ans.
Qui a été bordelais, ouais, pendant 2 ans, ouais, qui est à nouveau Biarrot désormais. Vous racontez un peu, non pas tant votre rencontre avec lui que la façon dont son attelage artistique avec votre autre ami Stéphane Escher s'est monté.
Oui.
Ce qui vous permet d'ailleurs de nous faire découvrir que Stéphane Escher travaille avec un autre grand écrivain maintenant, qui, oui, est Martin Suter. Tout ça, c'est une très bonne nouvelle.
Oui.
Voilà, on peut revenir, parce que l'anecdote qui était un désastre, enfin tout part d'un désastre, parce que c'est toujours le cas.
Oui, en fait, je crois, alors si ma mémoire ne me trahit pas, mais je crois que j'avais décidé de consacrer un Rapido à Djian.
Ouais, c'est ça,
c'est ça.
Ouais, je crois.
Merci. Et donc Rapido, c'était une émission de 26 minutes, et articulée au... Alors, quand il y avait un spécial comme ça, donc en l'occurrence Djian, il fallait que toute l'émission s'articule autour de lui, donc avec ses préférences, avec ses goûts, etc.
Ouais.
Un peu le grand échiquier, quoi. Et... Non, aucun rapport avec le grand échiquier, d'ailleurs. Pourquoi je dis ça, moi ? Et donc, nous étions descendus tourner à Biarritz, où il résidait à l'époque. Et j'avais emmené dans mes bagages Stéphane Escher, voilà, qu'il avait envie de rencontrer. Il avait envie de rencontrer Leonard Cohen, mais Leonard Cohen n'était pas disponible. Donc c'est Stéphane qui était venu. Et en fait, la rencontre entre les deux était assez étrange, parce que les deux sont un peu handicapés, on va dire, dans l'existence. Ils sont un poil...
Taiseux.
Taiseux, timides, introvertis. Enfin, il faut du temps, quoi. Et donc, on a tourné pendant 3 jours pour faire cette émission. Et au bout de 3 jours, quand on est reparti à Paris, on s'est rendu compte que Il n'y avait rien sur les bandes. C'est rare. C'est rare. C'était un problème de caméra. Absolument. Et il n'y avait rien à faire. Quoi. Rien. On ne pouvait relire que sur la caméra. Donc là, c'est aussi pour ça qu'on s'était fait avoir. Et donc, toute l'émission était achetée. Ouais. Et à refaire. Et du coup, je leur ai demandé à tous les deux si... Enfin, j'aurais expliqué la situation. Là, il faut tout recommencer. On est redescendu à Biarritz. On est redescendu avec Stéphane. Et là, pour le coup, comme c'était la deuxième fois et qu'ils avaient pu se renifler pendant 3 jours tranquillement, là, il s'est passé un truc. Ouais. Ça a pris. Et ça a pris. Alors là, pour le coup, je suis extrêmement fier de ça. Ça a pris au point que ils ont composé un attelage artistique, comme vous dites, qui est, qui fait date.
Qui a bien marché. Ouais. Hein. Avant qu'on aille plus loin...
Oh bah où ?
Oui, c'est vrai.
Il fait froid, hein.
Où vous voulez.
Je bouge pas. Bien sûr. Enfin, là, je vais avoir l'air d'être un peu partial en parlant de Springsteen. Écoutez, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore, le coffret de Darkness on the Edge of Town est un... Alors, pour les Springsteeniens, c'est un objet indispensable. Mais largement indispensable. Supérieur aux compilations récentes genre Trax, supérieur à... Le travail qui a été fait, d'abord parce qu'il y avait beaucoup plus de matériaux autour de Darkness qu'autour des autres albums, puisqu'il avait enregistré plus de 70 morceaux à l'époque. Il était resté presque un an en studio à se demander comment il allait sortir Darkness. Donc il y a à la fois il y a un double CD sur lequel il figure 21 titres, qui sont soit des titres qu'il avait... Vous le savez déjà tous déjà, ça ou...
Non,
bon, d'accord. Alors, soit des titres qu'il avait offerts à d'autres artistes comme Patti Smith, Robert Gordon et compagnie, parce qu'il trouvait les titres trop commerciaux pour rester sur Darkness. Il voulait un album aride, sombre et qui se démarque très nettement de Born to Run. Et surtout de la position dans laquelle l'avait mis Born to Run, puisqu'il était devenu une rockstar et qui voulait être tout sauf ça. Donc il y a 21 titres qui sont alors soit ses versions à lui de morceaux qu'il a donné à d'autres artistes, soit des versions inédites en studio, soit des versions alternatives. Il y a 2-3 trucs un peu bizarres d'ailleurs, où il a reposé une voix sur des arrangements de l'époque. Il y a notamment une version alternative de Racing in the Street, qui est l'antithèse de celle de l'album, qui est très pleine, symphonique, quasi-symphonique. Il a remis des couches de violon dessus, qui est assez étonnante. Donc il y a cet album-là, et après il y a l'album original remasterisé, ça on s'en fout un peu, et il y a 3 DVD. Il y a un DVD avec le documentaire qu'on avait diffusé sur Canal le jour de la sortie de Promesse, qui est tout le processus d'enregistrement de l'album, et qui est un documentaire passionnant sur un artiste, ce que je disais de Vander tout à l'heure, qui essaie de rester proche de son noyau dur. Mmh. Voilà, qui veut garder son intégrité artistique et qui en devient chiant, invivable à un point. Mais c'est très 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 bien montré dans le documentaire. Et puis ça a donné naissance à Darkness quand même. Et 2 autres DVD sur lesquels il y a je crois qu'il y a presque 3 heures de la tournée fin Born to Run, début Darkness. C'est-à-dire Springsteen sur scène en 77-78 quand il a 28 ans. Et comme on ne le verra plus jamais... Mais des concerts, moi c'est les premiers concerts que j'ai vus qui étaient juste anthologiques. C'est-à-dire que personne n'avait vu ça avant. Ce qui se passait sur scène avec Springsteen et Louis Street Band. Bon, ben ça il y en a 3 heures. Plus un concert qu'il a refait aujourd'hui, il y a quelques mois, dans un petit théâtre du New Jersey, où il rejoue tout Darkness de la première à la dernière note, sans public, rien, juste pour les caméras. Et qui est un moment aussi d'une intensité incroyable. Donc tout ça dans un seul coffret, avec un très beau livret. J'ai l'impression d'être travaillé chez Sony, là, mais... Non, vraiment, si vous aimez Springsteen, là, c'est... Ne passez pas à côté de ça, quoi. Je veux dire que c'est pas un album de plus, des fonds de tiroir, une compilation avec des... où il vous refourgue encore. Non, c'est pas du tout ça. C'est un objet en soi et c'est une œuvre en soi.
Puisqu'on parle de Springsteen, que vous écoutez depuis longtemps, on a compris. Oui, tout à l'heure, j'évoquais les réévaluations ou dévaluations que l'écriture du livre a pu engendrer. J'aimerais qu'on en dise un petit peu plus. Mais finalement, ces artistes-là, vous n'avez jamais cessé de les écouter. C'est pas pour l'écriture de ce dictionnaire que vous y êtes revenu ou...
Non, mais après, il y a eu des hauts et des bas. Hein, ouais. Il y a eu des moments où j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autres où c'était plus... Je passe pas ma vie tous les jours en me levant à me faire 3 heures de rock au casque, à m'en écouter des trucs. Hein. Non, c'est une écoute plus récréative, on va dire. Mais après, quand je me passionne pour... Il y a des artistes qui me passionnent, parce que je me rends compte qu'en fait, leur musique s'est inscrite dans ma vie au point d'en devenir une partie de la bande-son, d'une certaine manière. Et du coup, voilà, il y a une résonance, il y a le fait que je les connaisse aussi un petit peu, qu'on puisse parler du travail. J'ai une relation un peu différente avec eux, donc voilà, c'est pas juste un auditeur en train d'écouter des disques et d'avoir un point de vue dessus. C'est ça. Ça se mélange à une histoire personnelle. Ouais. Voilà.
Alors justement, dans votre avant-propos, vous rappelez un certain nombre de gens qui ont été plus que proches, qui vous ont construit aussi, à tous les sens du terme, puisque je pense à votre père. Je pense à votre père spirituel, Frédéric Dard, je pense à des gens comme Desproges, tous gens qui étaient absolument rétifs, connu un des trois, au rock'n'roll.
Oui.
C'est un regret, ça, non, qui...
Non, c'est un regret, non, parce que un regret servirait pas à grand-chose, mais de toute façon, la génération précédente, c'est peut dire qu'ils n'aimaient pas le rock, mais c'est bien, parce que ça nous a aussi permis de de trouver une position dans le monde, avec les gens qui nous disaient « Non, c'est de la merde, c'est du bruit, qui se vient écouter ces conneries. »
Mais ça, c'est extrêmement intéressant, parce que, vous aviez... La découverte du rock par votre génération, la mienne, ça s'inscrivait contre la volonté des parents.
Mais c'était aussi une manière de... disons que c'était un point de friction important.
Aujourd'hui, voilà. C'est vraiment le truc le plus partagé qui soit. Il n'y a pas un directeur de chaîne, de journal pas un amateur éclairé de Bruce Springsteen. Donc ça devient peut-être...
Aujourd'hui, on est dans un moment très paradoxal où les parents, souvent, les parents et les enfants écoutent la même musique. Enfin, s'ils n'écoutent pas la même musique, en tous les cas, il y a des points de croisement évidents sur certaines musiques de cette histoire-là. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune. C'est pas grave, ça permettait au contraire de s'affirmer, d'affirmer un point de vue et de se poser contre. C'est important pour se construire. Et puis moi j'ai eu des copains, des proches par exemple, qui détestaient le rock.
Ouais.
Ils détestaient lui, il aimait Brassens.
Oui. Mais c'est à peu près tout d'ailleurs.
Non mais c'est pas grave. Je vais pas être ami ou ennemi avec des gens en fonction de la musique qu'ils écoutent.
Alors, c'est vrai que les générations écoutent la même musique, mais sans vous faire injure, on vous sent pas... Il y a des gens que vous aimez beaucoup, Zemko Jolter, Arcade Fire, dont vous parlez, mais on sent bien quand même qu'il n'y a pas la même adhérence, et c'est normal, que quand vous parlez de Springsteen, quand vous parlez de... De Dylan.
Mais parce que on parle de gens qui s'inscrivent dans le temps, c'est-à-dire ils ont le bénéfice du temps pour eux. C'est-à-dire que leur travail m'accompagne depuis des dizaines d'années maintenant. Donc c'est sûr que ça laisse une trace plus profonde qu'un groupe. Ouais. Là, par exemple, il y a un type que j'adore qui s'appelle Timber Timbré.
Ça
vous dit quelque chose?
Oui, tout à fait.
Timber Timbré.
C'est vachement beau.
C'est bizarre comme nom. C'est un type qui fait du folk, c'est un américain, c'est un poil neurasthénique.
Une touffe neurasthénique.
Très belle musique, très belle musique, très très simple, très pure. J'aime beaucoup ça. Timber Timbré, je ne sais pas si je le prononce mal, mais j'adorerais croiser Timber Timbré et papoter avec lui.
Ouais.
Comme j'ai provoqué cette rencontre avec Richard Rolley, parce que Richard Rolley, comme Elorie, quoi. J'écoutais à haute dose, ça faisait. Et il fallait un moment que je parle à l'homme, avant de parler de l'homme.
C'est intéressant d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans des débats de spécialistes, mais enfin de spécialistes ou supposés-tels, mais vous parlez de Richard Rolley, vous ne parlez pas de Pulp. Ce qui vous intéresse, c'est Richard Rolley, c'est le grand chanteur élégiaque, sombre, et pas la post-Britpop de Pulp, même si c'est formidable Pulp.
Hein, exactement.
Bon, ouais. Voilà, c'est tout, vous voyez, on est allé plus loin. Non, il y a une chose qui m'a surpris, parce que je trouve ça bien de consacrer. Vous consacrez des pages pleines de tendresse, d'émotion, d'amour, pour quelqu'un dont on parle peu. A priori, je pensais pas que ça allait être, vu que des choix drastiques ont été faits, qui est très contemporain. C'est une chanteuse française, c'est Émilie Simon.
Oui.
je trouve que oui, hein, vous voyez. Alors, vous développez un peu ça.
J'adore Émilie Simon. Ouais. Je ne sais plus comment je suis tombé sur Émilie Simon. Je l'ai vue une fois en concert. Je t'ai retrouvé là comme...
C'est son père. Hein? Son père, non?
Non.
Non,
non, non. Je ne sais plus comment... Enfin bon. Et la première fois que j'ai vu Émilie Simon sur scène, j'ai été absolument épaté par l'invention de cette fille. Ouais. Par l'univers, par la bizarrerie, l'étrangeté de sa musique. Alors, totalement à côté de la plaque et de ce qu'on peut entendre en France. Et puis après, donc, je l'ai vu en concert, je me suis intéressé à son travail, parce qu'elle a tout un univers visuel qu'elle construit autour. Et puis voilà, c'est un drôle de petit personnage, une musicienne vraiment intéressante. Et pour les mêmes raisons qu'Elorie, je voyais pas de raison de ne pas parler d'elle, puisque j'en avais envie.
Bien sûr. D'autres questions ? Moi, j'en ai une dernière, un petit jeu.
Pour la route.
Une dernière pour la route. Petit jeu un peu cuistre, c'est... Mais puisque vous êtes cinéaste aussi, Truffaut disait que quand il avait un problème dans l'écriture d'un scénario, il pensait à Lubitsch. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y a quelque part dans l'œuvre de Lubitsch, forcément la réponse à son problème. Alors, je ne sais pas si vous, il vous est arrivé d'avoir des problèmes dans l'écriture de vos films. Imagine, oui, comme tout le monde. À quelle musique êtes-vous susceptible d'écouter pour, si ce n'est résoudre le problème, du moins le rendre plus smooth, quoi.
Ah, c'est une question d'humeur et de circonstances, j'ai envie de répondre. Il n'y a pas une réponse.
Bien sûr.
Je sais pas. Alors là, non, ça tout dépend du moment. Mais par exemple, au cinéma, j'ai beaucoup aimé faire travailler des musiciens qui viennent du rock et qui ne sont pas des compositeurs de musique de film professionnels.
Ouais.
J'entends par professionnel avec tout l'éthique du genre. Par exemple, Stéphane Echer, par exemple, Steve Naïf, qui est le pianiste de Costello, Ramon Pipin, qui est le leader de Bonheur des Dames. J'aime bien aller prendre des musiciens sur ce terrain-là pour les amener sur celui de la fiction. Et généralement, ça marche toujours bien.
Ouais.
Ça marche toujours bien parce qu'ils ont une fraîcheur, un désir, une envie de trouver un moyen, parce que c'est très difficile la musique de film, pour que ça soit pas redondant, les violons sur la scène sentimentale, les trucs staccato là pour le suspense, enfin voilà, trouver des idées, construire des univers, des atmosphères, jusqu'à présent je n'ai eu qu'à m'en féliciter. J'avais fait ça avec Peter Gabriel aussi sur le premier, sur les morsures, et alors c'était plus des boucles d'ambiance qu'une vraie musique, mais à chaque fois c'est une heureuse surprise. Ouais. Donc j'ai envie de vous répondre que quand le problème se pose, c'est des musiciens que je vais voir, autant que des gens d'image.
En fait, c'était des faux adieux à la scène. Est-ce que c'est encore possible de faire une belle émission de rock'n'roll à la télévision ?
Oh bah oui, pourquoi pas ?
Qu'il n'y en a pas. Donc la question se pose.
Il faut qu'il y ait une volonté. Hein. When there's a will, there's a way. Mais il faut une volonté.
Il y a de bonnes captations live, mais une vraie émission écrite.
Il y a une bonne émission sur Canal qui est présentée par Emma Decaune, qui s'appelle de la musicale.
Ouais. C'est ce que je disais, c'est une captation live.
Captation, c'est des concerts. Mais il y a... je m'étonne. Enfin, moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas un magazine... consacré au rock, ou si c'est même pas au rock, c'est ce qu'avaient fait les enfants du rock il y a 25 ans quand même, consacré à toute la pop culture, qui est quand même presque une culture dominante aujourd'hui. Et non.
On a l'impression que le rock étant partout, il est plus nulle part. Enfin,
oui, mais je sais pas, ça, c'est la volonté des patrons de chaîne. Écoutez, ils préfèrent réactiver Champs-Élysées c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais moi j'ai plus l'âge de ces conneries. Et je pense qu'une bonne émission de rock, elle doit être faite par des gens qui ont la génération d'aujourd'hui, qui ont un point de vue sur l'image, sur la narration, sur la... puis qui intègrent aussi toutes les données. C'est-à-dire que maintenant, on s'en fout de la télé. Si on veut écouter du rock, on va chercher sur le net et puis on trouve tout ce qu'on veut. Donc arriver à ramener les gens devant un poste de télé au prétexte d'une émission de rock, il faut vraiment des gens d'aujourd'hui qui aient un point de vue très radical, très neuf sur l'image. Ouais. Surtout pas faire le truc à l'ancienne, comme je m'empresserais de le faire si on me le confiait. Mais évidemment qu'il faudrait une... Enfin, sur le service public, ça me semblait étonnant que ça n'existe pas.
Il y a un dessin de Guy Pellaert, hommage en passant. Oui. C'est l'une des innombrables raisons d'acheter ce très beau volume. Ça serait la période des fêtes, je vous dirais bien que c'est une bonne idée cadeau, mais bon, une autre fois peut-être. Merci infiniment, Antoine Decon, d'avoir répondu à notre invitation.